Quelle connerie, la guerre. Lecture à trois voix de La mort du petit berger, extrait de Jessénier, tiré du roman autobiographique de Blaise Cendrars, La vie dangereuse, avec Suzanne Midroit, Sylvie Pusségur et Jean-François Marche.
J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité. Moi, poète, j'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre.
Il a toujours souffert, j'ai toujours vu souffrir. Toujours, 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 toujours. Parce qu'on lui avait coupé son bras, là, au-dessous du coude. Alors il avait tous les nerfs qui lui faisaient mal et il souffrait, c'était affreux.
La guerre est survenue, la guerre qui, par un coup de bol extraordinaire, lui a coupé un bras. Comme disait Picasso, Sandra est revenue de la guerre avec un bras en plus. C'est-à-dire que son corps imaginaire, son corps réel était cassé. Sa main était partie. Mais son corps imaginaire est devenu tout puissant.
10 novembre 1918, à mémoire des derniers morts. Si pour certains toutes les guerres sont absurdes, que dire de cette dernière bataille inutile? Les 10 et 11 novembre 1918, près de 100 soldats perdront la vie. Des pères, des fils, des maris, morts peut-être plus encore que les autres, pour rien. De nombreux d'entre eux, tombés le 11 novembre, verront leur acte de décès antidaté. Sur les fiches matricules, on écrira 10 novembre pour ne pas imposer aux familles un anniversaire du décès, un jour de victoire. Ces lectures aussi à mémoire du grand-père de Jean-François Marche, Henri Dubois, qui fut désappelé de 14-18. Du peu qu'il en sait, il était dans le génie, conduisait des camions, était-il de troupes d'artillerie ou sanitaire comme celui qui évacua Cendrars du front vers l'arrière après son amputation du bras droit? Une chose est certaine, il garde en sa mémoire l'émotion et l'ardeur qu'il enflammait lorsqu'il entonnait la Madelon lors des repas de famille. D'autant qu'il est vrai, il avait épousé sa grand-mère, Madeleine. Ce texte aussi à sa mémoire, à celle des femmes et filles de Poilu qui durent pallier l'absence des hommes dans les durs travaux. On attend toujours le monument à la femme du Poilu.
Si la nuit nous étions veillés par des sœurs, dans la journée c'était des infirmières patentées de l'Association des femmes de France qui s'occupaient de nous. L'étage supérieur de l'évêché avait été aménagé en lazaret de sang pour recevoir 150 à 200 grands blessés. Mais au lendemain de cette malheureuse offensive de Champagne, nous y étions bien 500. L'infirmière-major, Madame Adrienne, qui avait la responsabilité de ces pitoyables victimes, fabriquées en série par les armes et la chirurgie de guerre, était une femme au grand cœur. Je suis resté près d'un mois à l'hôpital de Chalon-sur-Marne. Et j'ai eu le temps de constater que le dévouement de notre infirmière était incommensurable. Madame Adrienne s'adonnait à sa terrible et souvent si répugnante tâche avec un tel élan, un tel tact et tant de délicatesse dans son doigté, de minutie dans les soins qu'elle nous prodiguait, avec une assistance faite d'autorité et de douceur persuasive, sans parler des cadeaux, des friandises, des attentions gentilles, dont elle comblait ses chers blessés et qui devait très sérieusement vider sa bourse. Que de prime abord, chacun de nous, échappé à grand-peine de la tuerie et tout boueux encore des tranchées, avait l'impression, puis était rapidement convaincu qu'il était le préféré de cette femme jalouse de ses petits. Tellement chacun se sentait gâté, choyé, dorloté, aimé et moralement soutenu et réconforté par cette infirmière bénévole dont l'activité charitable, malgré ses autres devoirs, allait jusqu'à servir de secrétaire pour correspondre avec les familles. Et Dieu sait si ces lettres de Poilu foudroyées en pleine jeunesse étaient de rudes confessions, chargées d'accusations impitoyables et d'épouvantables imprécations à l'adresse des parents, des maîtres, de la patrie ou de la femme aimée, des regrets, des considérations sur la vie, des désespoirs, des désirs bouleversants, des aveux enfantins et troublants, ou des mensonges dus à l'orgueil que l'infirmière-major perçait à jour, ce qui n'était pas pour faciliter la correspondance de ce témoin volontaire, lucide, attentif et courageux, mais sensible et surmené, qui devait transmettre, hélas, souvent au lendemain des premières nouvelles d'une blessure grave, l'annonce d'une issue fatale, et comme vœu de condoléance, les dernières volontés, c'est-à-dire 9 fois sur 10, la malédiction d'un soldat qui avait été sacrifié, mais qui s'était défendu à l'heure de sa mort véhémente d'avoir voulu être un héros.
À l'évêché, les blessés de l'étage avaient une telle dévotion pour leur infirmière que j'ai vu des trépanés sourire, des fous, des angoissés se calmer ou faire l'insouciant, des fiévreux se taire, des agités se dominer, des unijambistes courir trop tôt sur leur béquille pour faire plaisir à Madame Adrienne et pour la récompenser. J'ai vu jusqu'à des moribonds se dresser sur leur séant, crâner, saluer, faire des grâces, affirmer que maintenant ils étaient hors d'affaire et mourir avec aisance. Mais j'ai vu Madame Adrienne, après sa journée d'épuisant labeur, passer des nuits blanches au chevet d'un de ces misérables amochés qu'on lui descendait tous les jours directement du front et dont on déposait la civière salie dans un petit réduit capitonné parce que leur état était désespéré et parce que leur hurlement égaré était plus ignoble que leur chair déchiquetée. J'ai vu notre infirmière implorer les chirurgiens de tenter l'impossible, lutter toute la nuit, la seringue à la main, et dosant la morphine pour soulager la douleur d'un martyr soldat, et éclater en sanglots quand le cœur de l'homme flanchait et que cet inconnu, matriculé mais anonyme, passait de vie à trépas.
Son don d'elle-même était entier, sans aucune restriction, sans arrière-pensée, absolue. Madame Adrienne assistait chacun de ses blessés dans la salle d'opération. Elle refaisait personnellement et inlassablement les pansements les plus compliqués et les plus douloureux. De même qu'elle ne laissait à personne d'autre la corvée funèbre de faire la toilette d'un mort. Qu'elle allait veiller le corps à la chapelle, qu'elle accompagnait la dépouille au cimetière. Non plus en infirmière médaillée, mais suprême hommage d'une femme en grand deuil. Et chaque fois, elle revenait d'un enterrement dolente, trébuchante, s'effondrant dans ses voiles, se laissant aller comme une mère qui vient de perdre son fils unique. Et alors, si son service le lui permettait, elle venait se réfugier dans ma chambre et elle me parlait de son profond chagrin. Ces jours-là, et comme nous étions devenus très vite de bons, de très bons amis, cette vaillante que tout l'hôpital admirait m'avouait la solitude mortelle, la neurasthénie, le dégoût qu'il a gagné, secrètement. Et cette amardante n'avait pas honte de se trousser, de se faire en ma présence 2-3 piqûres de caféine pour se remonter, rester à la hauteur de la tâche qu'elle s'était imposée et ne pas sentir ses forces, ses nerfs, la trahir.
Car, n'est-ce pas, je suis femme, fille, petite fille, arrière-petite-fille d'officier français, et je n'ai pas d'enfant, m'avait-elle dit un jour. Mon mari a le malheur de servir dans les bureaux de Paris. J'ai estimé que mon devoir était de venir sur la ligne de feu. Et que ne ferait-on pas pour sauver l'honneur et la France ? N'est-ce pas, monsieur Sandrard ?
Si je ne méprise pas absolument les femmes, c'est que j'ai connu celle-là et rencontré 2-3 autres infirmières du même cran durant la guerre, qui toutes ont su payer de leur personne. Comme un avare son trésor, Madame Adrienne veillait jalousement certains blessés dont elle ne laissait approcher personne et qu'elle disputait même à la surveillance par trop standardisée et par trop entreprenante des médecins et des chirurgiens militaires. Ces blessés sélectionnés étaient installés dans une suite de chambrettes de bonnes, étroites comme des cellules. Et c'est tout juste si Madame Adrienne ne tenait pas ses privilégiés sous clé. Je n'étais pas du nombre de ceux-là, bien que Madame Adrienne me choya d'une façon toute particulière. m'apportant chaque matin des cigarettes de luxe, des Muratti Lauriston, à bout doré. À midi, quelques fleurs qu'elle devait faire venir de Paris. Dans la journée, des livres, les œuvres de Gringor, de Saint-Amand, de Scarron. Venant me tenir compagnie dès qu'elle avait quelques loisirs, bavardant avec moi, s'attardant, prenant plaisir à me faire raconter ma vie aventureuse en Chine ou en Amérique. Oubliant sa lassitude, mais ne permettant à personne d'autre de défaire et de refaire mon pansement. Et qu'était ma simple, ma saine amputation comparée aux plaies multiples, aux fractures compliquées, aux trépanations inédites, aux affections insidieuses des voies respiratoires, à la cécité, aux troubles mentaux, aux fonctionnels dégazés, des gueules cassées, des traumatiques, des paralysés, des hébétés, des anxieux, des aveugles qu'à force de veille, de constance, d'entêtement, d'audace, de génie inventif, de divination dans les petits soins de tous les instants, mais aussi de cœur, de prière, d'appel, de patience, d'amour, de tendresse, de protection maternelle, cette femme arrachée petit à petit à la mort ou à la désespérance.
Un jour, Madame Adrienne va me trouver.
Je ne me suis pas trompée, Sandra, en venant vous chercher. J'ai là un pauvre petit berger des Landes qui souffre le martyr. Je vais vous faire transporter dans sa chambre. Vous aurez vos livres et toutes vos autres habitudes. Mais je compte absolument sur vous pour le distraire. Je sais que cela ne sera pas drôle pour vous, car le pauvre, c'est un orphelin. Il ne parle pas beaucoup. Et vous devrez assister au moins une fois par jour à son pansement, qui est une chose terrible. Mais je ne connais personne d'autre pour lui remonter le moral. Entretenez-le. Racontez-lui des histoires, cela lui fera du bien. Vous voulez bien? Vous m'excuserez, n'est-ce pas, Sandra?
Ce pauvre petit berger des Landes était un petit soldat de rien du tout. Un bleuet de la classe 15, qu'un obus avait criblé d'éclats avant même qu'on lui eût désigné sa cagna. Avant qu'il eût eu le temps de déposer son sac et de se retourner un peu pour voir ce que c'était que ces fameuses tranchées du front dont on parlait tant dans le pays. Très brun de cheveux et de sourcils, le front étroit, les yeux sombres, le teint mat, son visage était hâve et ses joues creuses. Couché la tête en bas, la figure de cet adolescent disparaissait presque en entier dans les oreillers. Ses traits étaient crispés par la souffrance, et quand la douleur lui faisait pousser un hurlement, je voyais ses lèvres se tendre, découvrir ses dents de jeune loup, une veine qui se gonflait à la racine du nez lui barrait le front. Ses narines se pinçaient. Il fermait les yeux et une sueur d'angoisse lui mouillait le cou et les tempes. En effet, c'était un garçon taciturne et nos lits se touchaient presque dans l'étroite petite pièce. Si je puis appeler lit, l'encombrant bâti dans lequel il ne reposait pas. Mais le malheureux était suspendu par des sangles, des cerceaux, des courroies et un système à crémaillère. Tel un bœuf dans un travail, les fesses en l'air, et depuis 49 jours déjà.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la tête baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le doucement, il a froid. Les parfums ne font plus frissonner sa narine, il dort dans le soleil. La main sur la poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Deux trous rouges au côté droit.
Il avait reçu 72 éclats dans le bas des reins, ce qui lui faisait 72 plaies profondes, pénétrantes et de toutes dimensions, dont un gros trou rond qui le perçait latéralement de part en part et que les matières fécales infectaient. On lui avait retiré des fesses, je ne sais combien de kilos de ferraille, des bouts informes, des morceaux en dents de scie, des éclats comme des paquets de fines aiguilles, et aussi, chose extraordinaire, une pièce de 100 sous. C'est elle qui lui avait fait ce gros trou rond qui s'infectait. Pièce d'argent que le pauvre petit berger des Landes déclara n'avoir pas eu en poche quand il avait été touché. Étant orphelin, sans personne, sans même une marraine de guerre, et n'ayant jamais rêvé pouvoir disposer un jour d'une telle somme. Opéré une bonne douzaine de fois déjà, et ayant encore d'autres interventions chirurgicales en perspective à cause de cette infection, qui avait tendance à se généraliser, et de nouveaux éclats d'obus qui voyageaient dans ses chairs labourées et qu'il fallait sans cesse extraire. C'était fou ce que ce petit soldat avait à supporter dans les 24 heures, quoique copieusement drogué, car faisant de la température le soir, ses nuits se passaient dans l'agitation et le délire. Mais le moment le plus atroce de la journée était pour lui l'heure du pansement qui pesait sur sa conscience et dont il avait la hantise. Et quand cette heure approchait et que l'on entendait toubib et infirmière s'avancer dans le couloir, il se mettait à hurler, terrorisé d'avance par ce qu'il attendait.
Je renonce à décrire cette séance à laquelle j'étais obligée d'assister chaque jour, depuis que Madame Adrienne m'avait fait partager la chambre de torture de cet innocent supplicié. Mais, rétrospectivement, j'en ai encore le frisson quand j'y pense. Qu'il me suffise de dire qu'il fallait extraire 72 mèches de ces 72 plaies pénétrantes, les cureter l'une après l'autre, laver le tout à l'eau de Javel, débrider, fouiller à fond, nettoyer, irriguer au sérum physiologique, remettre les nouvelles mèches en place, puis s'attaquer au trou transversal fait par la pièce de 100 sous, en sortir le drain, sonder, faire des injections, tailler, couper, pincer, crever, arracher, mettre à vif, verser de la teinture d'iode dans le trou, remettre le drain en place, penser cette pauvre chose géniante, la remuer, la secouer, la retourner, la changer de position, la ressangler, faire sa toilette, refaire le lit. Et cela prenait 3 heures d'horloge tous les après-midi, tellement c'était compliqué. Le chirurgien s'en allait dès qu'il avait fini sa besogne avec ses griffes, ses curettes et ses pinces. Le médecin traitant avait hâte de disparaître dès qu'il avait fait injection et piqûre, prescrit stupéfiants et médicaments, régime. Et c'est sur cette pauvre amie Adrienne, comme sur un bourreau, que retombait l'office d'aller sans trembler jusqu'au bout de ce cruel traitement. J'avoue qu'elle s'en tirait avec dextérité, quitte à faillir tourner de l'œil quand c'était fini, et que ce pansement, qui était un chef-d'œuvre en son genre, était enfin terminé.
Vous comprenez maintenant pourquoi je me dégoûte, Sandra, me disait-elle en s'asseyant sur mon lit. Je n'en plus pu. Pourtant, je suis très fière de ce petit. C'est moi qui l'ai installé là et qui ai obtenu ce traitement. On voulait le charcuter et moi, je veux le sauver. Je sais bien que c'est pénible et que ce sera encore long. Mais, mon bon ami, si vous saviez par où ce pauvre petit a déjà passé, il était condamné. 10, 20 fois, les médecins voulaient l'abandonner. Des ans qu'il n'y avait plus rien à faire, que l'infection gagnait. J'ai tenu bon, et maintenant, je vous assure, il va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Et le chirurgien lui-même prétend que son cas n'est plus désespéré. Une odeur de pourriture, de camphre, de phénol, de bombe du Pérou, d'excréments régnait dans la chambrette surchauffée. Le petit berger des Landes, pansé de frais, gisait comme un agneau râlant. Madame Adrienne appuyait sa tête sur mon épaule et je lui tapotais les mains de ma main valide. « Je vous admire et je vous plains, » lui disais-je. Mais déjà, Madame Adrienne se sauvait car d'autres blessés réclamaient ses soins. Mon bras coupé me faisait mal. « Sale guerre, » disais-je à haute voix.
Malgré les drames individuels qui se jouaient dans chaque lit de ce lazaret d'extrême urgence, jeux de la vie et de la mort qui sont le train-train habituel d'un hôpital, le temps passait relativement facile à l'évêché de Chalon-sur-Marne. Car l'homme s'accoutume à tout, et même, chose indigne à dire, même à ne pas avoir été respecté dans son intégrité physique. Cette pensée m'était abominable. Et pour ne pas me sentir corporellement diminué par l'amputation de mon bras droit, après quelques jours d'hospitalisation, et dès que j'avais pu me mettre sur mon séant, tous les matins à l'aube, je boxais un petit quart d'heure dans mon oreiller. Mon bras saignait abondamment, mais je n'en tenais pas compte, surmontant la douleur pour porter des coups redoublés et de plus en plus vite avec mon moignon. Si le 19e jour, le chirurgien attribua à cet exercice répété la cicatrisation record de mon bras, cicatrisation record qui le surprit au point qu'il recommanda par la suite à tous ses amputés de se livrer au même genre d'exercice, j'attribuais, moi, à la boxe d'autres vertus, et plus particulièrement celle toute mentale de me rendre la notion, sinon de mon intégralité, du moins de mon équilibre corporel. C'est ainsi qu'après la boxe, je me mis à jongler dans mon lit avec des oranges, avec des menus objets, apprenant à me servir de ma main gauche avec force, puis avec dextérité, mais me servant également de mon bras droit raccourci pour renvoyer une balle ou tenir un plat, des verres, un vase en équilibre. Et c'est toujours, pour la même raison, pour ne pas me sentir physiquement diminué, qu'une fois rendu à la vie civile, je me suis mis à pratiquer tous les sports violents et les jeux d'adresse, tels que le football, la natation, l'alpinisme, l'équitation, le tennis, le basketball ou le billard, les boules, le tir au pistolet, l'escrime, le croquet, les fléchettes. Grâce à quoi ? Aujourd'hui, je pilote aussi bien mon automobile de course que j'écris à la machine ou sténographie de la main gauche, ce qui me vaut de la joie.
De la joie. Je n'en demandais alors pas tant dans mon lit d'hôpital, quand je me livrais à mes premiers exercices, me contentant tout simplement de prendre plaisir, un plaisir enfantin, à voir que je n'étais pas trop maladroit. D'ailleurs, le petit berger que Madame Adrienne m'avait confié pour le distraire s'amusait beaucoup plus de mes exercices de jongleur et d'équilibriste et de mes tours d'adresse que de mes histoires. Pauvre gosse, c'est ce petit berger des Landes qui m'a fait comprendre que si l'esprit humain a pu concevoir l'infini, c'est que la douleur du corps humain est également infinie et que l'horreur elle-même est illimitée et sans fond.
Pauvre gosse, un après-midi, vers les 4 heures, on venait de parachever le pénible pansement du petit berger et mon voisin de lit, reposé, épuisé, abruti par une dose massive de pantompon, et moi, je lisais tranquillement, quand le bruit se répandit dans les chambres et les couloirs, qu'un célèbre médecin, un des maîtres de l'académie, directeur de je ne sais plus quel hôpital de Paris, et qui, si mes souvenirs sont exacts, devait s'appeler quelque chose comme Monsieur le professeur Dufossé ou Défossé. Bref, un grand Manitou qui avait le grade de général allait venir passer la visite à l'évêché et immédiatement, comme à la caserne, l'annonce de cette inspection, Sainte-Croix fut sans dessus-dessous. On n'entendait que des pas de course dans les couloirs, des éclats de voix, des ordres, des bruits de chaises, des lits remués dans les pièces à côté, Des infirmières entraient, sortaient, changeaient la lingerie, apportaient des serviettes propres, des thés d'oreiller, tapotaient les draps, tiraient les couvertures, rangeaient les flacons et les plateaux, emportaient les seaux de toilette et tout ce qui traînait. Pièces de vêtements, béquilles, gâteries, passe-temps, jeux de cartes, livres, revues, journaux, menus travaux, fleurs fanées, vieilles boîtes à cigares qui contenaient les souvenirs de guerre des poilus. Boutons d'uniforme, pattes d'épaulettes, chargeur allemand, bagues d'aluminium, briquets faits d'une cartouche, lettres d'amour, photos, etc. Et sur leurs talons, entraient, sortaient les femmes de ménage auxiliaires qui venaient donner un coup de torchon, de plumeau, d'asticage, aérer les chambres, refaire les plis des rideaux, vider les cendriers et les aubergines. Des adolescents se glissaient furtivement d'une chambre dans une alcôve, très excités par les nouvelles qu'ils colportaient, annonçant l'évacuation générale de l'hôpital, le déménagement dans les hôtels de la Côte d'Azur ou la mise en réforme immédiate de tous ces pauvres bougres. Nouvelle sensationnelle que le grand Toubib Manitou allait nous confirmer séance tenante. Mais si certains de ces bavards se réjouissaient comme des enfants de leur prompte démobilisation et de leur prochain retour dans leur foyer, auquel ils croyaient de bonne foi, d'autres, plus astucieux ou plus méfiants, allaient se recoucher, absorbés coup sur coup, pinards, alcool, médicaments pour se donner la fièvre, se gratter, prêts à envenimer plaies et blessures, non pas pour apitoyer qui que ce soit et ne pas quitter la bonne vie de l'hôpital, mais parce qu'ils savaient, par expérience, que la venue d'un grand chef ne présage jamais rien de bon pour le soldat. Et ces malins se tenaient quoi ? Prêts à faire croire qu'ils étaient à l'article de la mort et regrettant de ne pas être amputés des quatre membres.
Au milieu de tout ce remue-ménage apparut Madame Adrienne, qu'on était allé chercher à son domicile, en ville.
« Je suis très ennuyée, Sandra, » me dit-elle en pénétrant dans la chambre et après avoir jeté un coup d'œil anxieux sur le petit berger assoupi. « Chut, il dort. Je viens d'apprendre que nous avons ordre de défaire tous les pansements. Monsieur l'inspecteur désire voir nos blessés un à un. C'est un général, il va arriver d'un instant à l'autre et je ne puis tout de même pas infliger son supplice une deuxième fois dans la journée à ce pauvre petit. Il n'y résisterait pas. Que dois-je faire ? »
Mon Dieu, madame, éteignez la lumière et fermez notre chambre à clé.
C'est impossible.
Alors, faites commencer la visite par l'autre bout de l'hôpital et menez cet illustre professeur partout, à la cuisine, à la lingerie, à la cave. Faites-lui voir la pharmacie, l'autoclave, les cabinets. Ne lui cachez rien. Baladez-le dans tous les coins et les recoins. Et peut-être que ce général aura envie de s'en aller. Et s'il se fait tard, qu'il nous oubliera nous deux. Il est déjà plus de 4 heures. Il ne va pas coucher ici, non. Dans 1 heure ou 2, il en aura assez. Faites traîner les choses.
Vous avez probablement raison. Mais vous ne connaissez pas les inspecteurs du service de santé. Ils vont fouiller partout. C'est entendu. Mais c'est surtout pour nos petits blessés que je suis inquiète. Pourvu qu'il n'arrive pas malheur. Je ne suis pas tranquille. Imaginez-vous qu'il s'attarde auprès de celui-là et qu'il nous demande comment, pourquoi, et ceci et cela, et qu'il veuille y porter la main.
Mais non, chère madame, vous êtes nerveuse, vous exagérez. Qu'est-ce que ce général peut faire à ce pauvre gamin ? Dans l'état où il est, il ne le regardera même pas. D'ailleurs, vous serez présente. Et s'il veut le toucher, le chirurgien et vous, vous n'aurez qu'on ne peut pas lui faire 2 pansements dans la même journée, que cela est trop épouvantable. Tenez, montrez-lui sa feuille de température. Il a encore eu une fameuse poussée aujourd'hui. Ce général est tout de même un médecin, que diable. Il comprendra.
Vous croyez ?
Mais naturellement. Écoutez, vous allez défaire mon pansement pour lui montrer mon bras qui est guéri. Et quand je l'entendrai venir, ce grand croque-mitaine de général, j'irai me poster sur le seuil de la porte pour l'empêcher d'entrer et lui dire combien j'ai été bien soigné chez vous.
Je vous défends absolument de vous lever, Sandra.
Et pourquoi pas ? Procurez-moi n'importe quelle défroque, puisque je suis arrivé tout nu et que pas que mon bras soit déjà cicatrisé. Il prétend que j'ai battu un record. Eh bien, aujourd'hui, je veux l'épater. Et je tiendrai debout. Je vous le jure pour les recevoir. Lui, son général, et le président de la République même, s'il vient.
Madelon, mais pour nous c'est l'amour.
Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon.
La Madelon pour nous n'est pas célèbre, quand on lui prend la taille ou le menton. L'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main.
La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant.
Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment?
Tes amis vont venir,
tu n'auras pas ma main.
J'en ai bien trop besoin pour leur verser du.
Quelle connerie, la guerre. Lecture à trois voix de La mort du petit berger, extrait de Jessénier, tiré du roman autobiographique de Blaise Cendrars, La vie dangereuse. Avec Suzanne Midroit, Sylvie Pusségur et Jean-François Marche.
Je n'avais pas voulu me vanter, mais j'avais trop présumé de mes forces. L'infirmière-major était à peine sortie que, voulant me lever seule, j'allais m'étaler de tout mon long sur le parquet ciré, tombant de tout mon poids sur mon bras coupé, ce qui me fit plus mal que le jour où j'avais été blessée sur le champ de bataille par une balle de mitrailleuse. Néanmoins, quand Madame Adrienne revint quelques instants plus tard avec une vaste robe de chambre qu'elle était allée quérir pour moi, elle me trouva debout, cramponnée au barreau de mon lit. Et à 5 heures, j'avais fait quelques pas dans la chambre. Et Madame Adrienne, sinon rassurée sur le sort de son petit berger, mais du moins contente de moi, put s'en aller à la rencontre du général dont une cloche venait d'annoncer l'arrivée. À 6 heures, je commençais à me sentir le pied ferme. À 7 heures, j'étais à cheval sur une chaise, en proie à un léger mal de mer, car tout commençait à osciller autour de moi. À 8 heures, j'étais étendue sur mon lit, mais prêt à me lever à la première alerte quand on vint nous annoncer que le dîner allait être servi.
Cela faisait déjà 4 heures d'horloge que la vie de la maison était suspendue à la visite de ce général, dont l'inspection qui n'en finissait pas troublait l'ordonnance et la bonne marche des services de l'hôpital. Entre 8 et 9, le désordre était à son comble. La température n'avait pas encore été prise et les 500 blessés en traitement eurent un souper froid, servi à la hâte par les filles de cuisine. J'appris par ses servantes qu'à son arrivée, une séance orageuse avait eu lieu dans le bureau de l'intendant et que le général avait engueulé chirurgiens, médecins et infirmières. Tout le monde était sur les dents.
À l'heure de la relève, les religieuses m'apprirent que le célèbre praticien de Paris était enfermé dans la salle d'opération et que depuis 2-3 heures, il sciait bras et jambes pour faire la leçon à l'état-major médical de l'évêché. Tout le monde était consterné et il paraît que dans toutes les chambres, les blessés s'agitaient beaucoup et que d'une façon générale, les températures montaient. Un peu plus tard, Sœur Philomène, au guet, au sommet de l'escalier, vint me dire qu'ils étaient en train de festoyer. Le général, l'intendant, les médecins et les infirmières laïques, qu'ils n'avaient pas l'air de s'ennuyer, car on parlait et riait fort dans la salle à manger du rez-de-chaussée, dont les portes étaient poussées contre. Et Sœur Philomène paraissait indignée. Il pouvait être 10h30, 11h, moins le quart, quand mon camarade de chambrée, qui jusque-là était resté assoupi, ouvrit les yeux pour me demander.
Dis donc, vieux, qu'est-ce qui se passe ?
Quoi ?
On en fait du bruit ?
Mais non.
Mais si ?
Je t'assure que non, tu dérailles.
Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu prendre ma température ce soir ?
Tu dormais.
Alors, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas fait manger ?
Tu dormais. Je leur ai dit de ne pas te déranger pour une fois que tu roupillais peinard.
Dis donc, vieux, j'ai fait un sale rêve.
Ah ?
Oui. J'ai rêvé que... Dis donc, tu ne crois pas que je vais plus mal ? J'ai rêvé que j'allais crever, et maintenant je suis sûre que je ne m'en tirerai pas.
Tu dis des conneries.
Tu crois ? Alors, dis voir pourquoi est-ce que Madame Adrienne n'est pas venue ce soir comme à l'habitude. Je ne suis pas plus malade, hein ?
Madame Adrienne ? Mais ne t'en fais donc pas, elle va venir. Tu vois, je l'attends, je me suis habillée. On va lui faire une bonne blague, tu vas rire.
Mon voisin se retourna péniblement. Je m'étais mis debout dans ma vaste robe de chambre qui me drapait comme une statue de Balzac. Le petit me regarda.
C'est drôle ça. C'est drôle, bégaya-t-il. Comme tu fais grand. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Quoi ?
Je ne comprends pas. Pourquoi t'es-tu habillée ? Tu ne vas pas me quitter, hein ?
Et au bout d'un long moment de silence, le pauvre supplicié me demanda encore plus inquiet.
Mais dis donc, quelle heure est-il ? Tu les entends ? On dirait qu'ils viennent.
En effet, on entendait un brouhaha dans le corridor. Aussitôt, le petit Landais se mit à hurler de terreur.
Ah non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Madame Adrienne, je vous en supplie. Ce n'est pas l'heure. Ah,
oh. Il était complètement fou.
Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Fit une grosse voix.
Un groupe envahit la chambre. 11 heures venaient de sonner.
Alors, c'est toi qui cries comme ça, me dit un gros homme en blouse blanche, en me bousculant sur le pas de la porte. Madame Adrienne, notre chirurgien, nos médecins, nos infirmières, d'autres membres du personnel de jour et de nuit, dont les infirmiers militaires poussant le chariot à pansement, escortaient ce gros homme jovial dont le képi galonné, planté de travers sur le crâne, découvrait le visage congestionné, le front cabossé, les tempes veineuses, la moustache d'Amadou, les mauvaises dents et les petits yeux rieurs, mais aigus, du bleu le plus intense. « Mon général, lui dis-je, regardez, je suis guéri, mon bras est cicatrisé, je le bouge. Vous savez, je jongle, je boxe avec. Et il n'y a pas 3 semaines que je suis là. J'ai été blessé le 29 septembre, c'est un record. Et je me mis à jongler avec 3 balles de tennis que j'avais préparées. »
L'inspecteur éclata de rire. « Mais c'est très bien, mon petit. Va te coucher.
Mais cet autre-là, le pendu, qu'est-ce qu'il a ? Demanda-t-il à Madame Adrienne, qui s'était précipitée pour protéger son petit martyr. L'infirmière major se mit en devoir de fournir des explications circonstanciées sur la blessure, les plaies, l'extraction de nombreux éclats, l'histoire de la pièce de 100 sous. Donnant des détails sur le traitement suivi, les soins appropriés et délicats pour lutter avec l'infection, les souffrances endurées par le patient, qui allait de mieux en mieux, et que le chirurgien affirmait être maintenant tiré d'affaire. Le général l'écoutait avec beaucoup d'attention. Cependant que le petit berger braillait comme un âne, « Ah, oh !» sans rien articuler d'autre. La chambre était pleine de monde. Je m'étais assis sur mon lit.
« Passez-lui la feuille de température, » chuchotai-je à sœur Philomène, debout devant moi.
« Défaite ses pansements, » ordonna le professeur en consultant la feuille. « Je veux le voir. »«
Non, non !» hurlait le gosse.
« Ne t'agite pas, » disait Madame Adrienne au petit qui se débattait. Cependant qu'elle défaisait diligemment les bandes. « Ce ne sera rien, c'est pour ton bien, tu verras. »«
Dépêchez-vous, » fit le général. Cependant que lui et le chirurgien enfilaient leurs gants de caoutchouc, que l'on avançait le chariot à pansement, que l'on faisait fonctionner la crémaillère du lit pour présenter le blessé en bonne posture, et que le cercle des curieux se resserrait pour ne rien perdre de ce qu'allait dire ou faire le grand, le fameux praticien de Paris.
Madame Adrienne me jeta un regard désespéré. L'inspecteur général s'était muni d'une pince et d'une lancette. Il arracha brutalement les mèches, les unes après les autres, se pencha sur les fesses trouées, les renifla de très près, sondant chaque plaie, puis, sans s'occuper des cris inhumains du petit paysan, il enleva le drain du gros trou latéral, la fouilla, se redressa et dit en faisant la grimace.
« Je vous félicite, madame, et j'admire votre courage. Mais cette méthode ne vous mènera à rien. C'est un travail de patience, un vrai puzzle. Mais vous perdez votre temps. Tous ces nids d'abeilles sont autant de foyers d'infection, d'où ces poussées de température et les sauts irréguliers de la courbe. Ce que vous croyez avoir gagné un jour est du terrain perdu dès le lendemain, car ce terrain est miné. De quoi s'agit-il ? Nous sommes sur un champ de bataille. » Le sol est miné. Nous ne pouvons donc pas attendre, rester à la merci de l'ennemi. Il nous faut lutter contre la montre, gagner l'ennemi de vitesse. Il ne faut donc pas y aller par quatre chemins, mais pratiquer une contre-sape. Mais je dois détecter le principal foyer. Je dis donc qu'il nous faut réunir tous ces entonnoirs, tracer un réseau de boyaux qui aboutissent tous principales. Ce qui permettra par la suite de débusquer l'ennemi partout où il se niche. Attention, une seule entrée, une seule sortie. Nous pratiquons une incision, une autre, encore une autre, bien profonde. Et nous voici dans la sape, comme dans un égout central sous la place de l'Opéra. Toute la surface étant drainée, nous ne nous occuperons que du centre, qui, bien dégagé en profondeur, reste à notre portée. Je pose une agrafe en haut, je la rabats, je...
Il enjoint le geste à la parole, éminent professeur de la faculté qui pérorait pour la galerie, comme s'il était à son cours devant son public d'étudiants, taillé dans le vif, réunissait les 72 plaies, qu'il débridait en une seule, large, profonde, et il se fraya un si beau chemin qu'au bout de 50 minutes de démonstration, le soldat était mort. Mais cela faisait déjà un bon moment que le petit berger des Landes ne gueulait plus.
C'était « Quelle connerie la guerre », une lecture à trois voix de « La mort du petit berger », extrait de Gesseigner, tiré du roman autobiographique de Blaise Cendrars. La vie dangereuse, lecture proposée par Jean-François Marche. avec Suzanne Midroit, Sylvie Pusségur et Jean-François Marche. Merci pour la musique à Max Richter, Arvo Part, Jean-Louis Aubert, reprenant la musique Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, le groupe Chanson en Barre pour sa reprise de La Madelon, ainsi que Thomas Newman. Et on se quitte avec Georges Brassens et sa guerre préférée, celle de 14-18 bien sûr.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.